Chali m'était conté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Nous sommes actuellement à la Bibliothèque royale de Chali. Parce qu'une grande partie de cette grande bibliothèque, et j'en profite pour parler de cette bibliothèque médiévale qui malheureusement a été dispersée, on en connaît encore pas mal d'éléments à la Bibliothèque nationale de France, par exemple, hein, aux archives de Beauvais, mais je dirais que malheureusement l'essentiel a été soit vendu, soit pillé, soit simplement conservé dans des lieux sûrs. Est-ce qu'on peut quand même être satisfait de cela? Mais on connaît une liste de ces livres qui est ou de ces parchemins qui est tout à fait impressionnante. Alors, on s'était quitté sur le support de papier au Moyen-Âge. Donc, d'un côté, on avait le parchemin, hein, qui va être utilisé pendant des siècles. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, on voit arriver la révolution du papier. Les papivores arrivent. Méfions-nous. Donc maintenant, on va passer un petit peu à l'organisation du texte sur ce papier ou sur ce parchemin. Ça revient à peu près à la même chose. Et donc à la fabrication de ce qu'on appelle le codex, traduit tout simplement par livre. Hein, le codex, c'est le livre. Alors l'étymologie est assez intéressante. Si on en suit un philosophe de l'Antiquité romaine, codex désignerait plutôt des planches, un tas de planches. Et souvent, ils traitaient les bateaux romains. Les Romains n'étaient pas des grands navigateurs. Ils disaient que leur bateaux étaient des codices, au pluriel, codex codis, n'est-ce pas? C'est-à-dire des tas de planches un peu pourries, c'est tout ce qu'ils avaient. Alors, on va voir pourquoi on parle de planches à propos du livre. C'est pas forcément une étymologie qui est complètement fondée. En tous les cas, je vous la livre. Alors le codex, il est constitué de plusieurs cahiers, hein. Vous avez déjà vu un livre bien relié. On voit qu'il y a plusieurs cahiers qui sont assemblés les uns avec les autres, hein. Et les feuilles de ce cahier sont cousues dans la pliure. On fait de la couture, on utilise ce qu'on appelle un cousoir, une aiguille recourbée assez robuste, bien sûr. Les cahiers sont donc empilés. Ces cahiers sont ensuite reliés entre eux et protégés par deux couvertures de bois. Vous voyez, on arrive aux planchettes que j'évoquais tout à l'heure dans l'étymologie de codex. Et donc, on a les parchemins reliés et une couverture qui les protège, qu'on appelle des haies, A-I-S. Et là, les cahiers ils sont fixés par ce qu'on appelle la tranche-file, hein, qui passe par la pliure des cahiers et qui relie tous les cahiers entre eux avec ces deux haies couvertures. Alors, ces deux haies sont en général en bois, mais elles sont souvent évidemment recouvertes de cuir. Alors, parfois des cuirs assez exotiques, on va retrouver des peaux de cerf ou des peaux de daim, ou alors carrément décorées comme un objet d'orfèvrerie, avec des pierres précieuses, avec des tablettes d'ivoire. On a quelques exemples qui nous sont parvenus, hein. Je pense au psautier de Charles Le Chauve, par exemple. D'autres sont parfois déjà enluminées, c'est-à-dire qu'on a déjà une peinture, en quelque sorte, une miniature qui va organiser cette première page. Je pense au psautier de Dagulf, qui est lui aussi assez connu pour cette décoration. Alors, ce livre est souvent renforcé aux angles. Vous verrez souvent dans ces livres, dans ces codices, vous verrez souvent des coins métalliques. Eh bien, tout simplement, c'est parce que les angles d'un livre sont fragiles. Vous savez, en termes de livres, il y a les angles qui sont fragiles. Et puis, il y a aussi le haut de la reliure. Parce que nous avons pris l'habitude relativement récente, hein, par rapport au Moyen-Âge, bien sûr. Il s'est écoulé quelques siècles. Dans nos bibliothèques actuelles, nous avons pris la détestable habitude de tirer un livre qui, lui, est conservé verticalement. Et donc, nous le tirons par le haut de la reliure. Et très souvent, on détruit comme ça la reliure en tirant avec notre index le livre pour le sortir, évidemment, de la file dans laquelle il a été conservé. Eh bien, au Moyen-Âge, les livres ne sont pas gardés comme ça, debout. Ils sont gardés à plat. Et pour ne pas qu'il y ait d'humidité, il a même des espèces de cabochons, des petits pieds, hein, qui font que l'air pourra circuler entre la planche, entre l'étagère et le livre lui-même. Et puis très souvent, il y a une chaîne. Bon, bien sûr, il y a un fermoir. Ce fermoir pouvait mettre une clé éventuellement pour éviter que quelqu'un ne l'ouvre. Hein. Oui, on est vraiment devant un objet, souvent d'orfèvrerie, je le disais tout à l'heure. Il y a des lanières de cuir, hein, qui maintiennent le livre fermé. C'est vrai encore la Renaissance d'ailleurs. Et puis, il y a une chaîne. Eh bien, tout simplement parce que les livres sont des objets extrêmement précieux. Hein, et à ce moment-là, ben, ils étaient volés. C'était une matière, évidemment, à dégradation pour l'argent. Hein. Et donc, on enchaînait les livres au présentoir, en quelque sorte. Alors, cette structure de livre est toujours là, celle que nous connaissons actuellement. Je ne parle pas des livres brochés, hein, qui sont maintenant qui sont assemblés avec de la colle. On voit bien qu'au bout d'un certain temps, lorsque vous les avez utilisés, les feuilles ont tendance à prendre leur indépendance. Hein. C'est beaucoup moins, évidemment, résistant. Mais évidemment, ça coûte moins cher. Est-ce que l'invention de l'imprimerie va modifier les principes de mise en page du livre? Je pourrais répondre non. Simplement, ça coûte moins cher. Hein, quand on écrit sur du papier. Mais grosso modo, l'organisation du livre est toujours la même que nous connaissons actuellement. Hein. L'imprimerie, si vous voulez, qui va être évidemment une révolution, ce n'est pas une révolution pour le livre. C'est d'abord une révolution culturelle et sociale, plus qu'une révolution sur la structure de notre codex, en quelque sorte. Alors, les encres. Là aussi, je vais en parler rapidement. La composition a changé tout au cours des siècles. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on dispose. Hein. Si vous êtes à Crépy-en-Valois, pas loin de la forêt, ben vous allez, pour l'encre noire, utiliser ce qu'on appelle la gale du chêne, hein, qui va vous donner une poudre noire extrêmement fine. Vous pouvez utiliser, bien sûr, ce que vous avez sous la main tous les jours, la suie. La suie la plus fine, si possible, quand même. Hein. Donc, il suffit de la récupérer avec délicatesse dans la cheminée. Et puis, en gros, tous les produits calcinés hein, vous donnent du noir. Hein, pensez au fusain, on pouvait dessiner avec du charbon de bois aussi, hein, directement. Donc, on va mélanger cette poudre, alors, je vais prendre l'exemple du noir, avec un liant. Alors, ce liant, bah, ça peut être la gomme arabique, ça peut être du miel, ça peut être du blanc d'œuf, ça peut être de la gélatine, ah, bah, avec les animaux, on a ce qu'il faut, ça peut être de l'huile. Hein, ça dépend évidemment de la nature du pigment, ça dépend évidemment du support qu'on va utiliser par la suite. On peut aussi faire des mélanges, on peut y ajouter du sulfate de fer ou de cuivre, on peut changer les liants, enfin bref, il y a des recettes, des véritables recettes de cuisine qui sont disponibles. Et on peut utiliser des animaux, je pense à la cochenille, on a l'occasion d'en parler, qui est une petite bébête qui vit, comme son nom l'indique, cochenille, qui vit en Asie. Et quand on l'écrase, elle nous donne une poudre rouge intense, hein, ce qu'on appelle le rouge cochenille, qui au Moyen-Âge ou à la Renaissance coûtait très très cher. Imaginez le nombre de chenilles qu'il faut pour faire une fresque, hein, par exemple. Et ces encres rouges, donc, soit sont réalisées à partir de minéraux, soit à partir, évidemment, d'animaux. Pourquoi je parle d'encre rouge? Ben tout simplement, là aussi, j'avais commencé lors de l'émission précédente à évoquer les relations entre les noms qu'on donne dans la structure du livre et le livre lui-même. Eh bien, dans les manuscrits, on va utiliser le rouge pour distinguer les différents paragraphes. Alors, rouge, ben, vous savez, donc c'est le rubrum, rouge en latin, et ça va nous donner rubrique. Donc, chaque rubrique désigne chaque paragraphe et structure le texte. Lorsqu'on parlera de la bibliothèque de Chaly dans une prochaine émission, il faut savoir que jusqu'au XIVe siècle, on écrivait sans ponctuation, là aussi. Donc, vous imaginez, pour comprendre un texte, il fallait parfaitement, évidemment, maîtriser la grammaire. Et d'autre part, la plupart de ces livres n'étaient pas forcément lus, mais surtout entendus. Il n'y en avait pas beaucoup, donc on lisait aux étudiants et ils travaillaient à l'oreille. Une grande partie du savoir se faisait de bouche à oreille. On verra que ça coûtait très cher, évidemment, de posséder un livre. Alors, donc, d'autres exemples pour les couleurs. Pour le blanc, on utilisait la céruse, c'est l'oxyde de plomb. C'est pas terrible sur le plan de la santé. Hein. Mais on pouvait utiliser, pour le rouge, j'ai oublié de le dire, le minium. On l'utilise plus maintenant, mais vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, en tous les cas, de cette peinture rouge dont on couvrait le métal pour éviter qu'il ne rouille. Avant de s'apercevoir qu'il était particulièrement dangereux pour la santé. Là aussi, on sait qu'il était utilisé, ce minium ou cette céruse, était utilisé, alors c'est pire encore, pour adoucir les vins. Donc, imaginez donc le nombre de personnes qui ont été atteintes de saturnisme à la suite de la consommation des vins lithargés, on disait. Pour le rouge, on pouvait utiliser donc des terres d'ocre rouge ou du bois de santal. mais aussi un coquillage, je pense à ça, qui va servir à la pourpre. C'est plutôt un rouge violacé. C'est le murex. On va avoir donc un trafic de murex extrêmement important à travers la Méditerranée. Pour le jaune, ben des produits de luxe, hein, je pense au safran, au curcuma, que nous on connaît bien sûr pour, comme épices, mais c'est aussi des colorants. D'ailleurs, si vous travaillez un peu le safran ou le curcuma, vous aurez bien les doigts jaunes. Et puis une plante qu'on appelle la gaude, qui va faire la fortune de notre région. Et c'est une plante tinctoriale. Et s'il y en a une belle cathédrale à Amiens, c'est aussi parce qu'on a planté et vendu de la gaude. Et c'était vraiment, je dirais, c'était le foie gras au niveau de la rareté et du prix payé. Pour le bleu, alors le bleu est arrivé assez tard, mais on avait la tradition antique, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette roche qu'on appelle le lapis lazuli, qui est une gemme utilisée dans l'Antiquité égyptienne, que l'on broyait, qu'on réduisait en poudre. Mais on peut utiliser aussi du bleuet, hein, la plante qui porte bien son nom, hein, du chureau. Pour le vert, ben, on peut utiliser l'iris, le vert de cuivre. Pour le rose, on utilisait un bois du Brésil. Je ne sais pas si c'est le même qu'on appelle le bois de rose qui sera utilisé par les marketeurs à la Régence. On peut y penser, mais bon, je n'en suis pas sûr. Alors, on n'utilise pas toutes les couleurs. Par contre, elles sont relativement peu marquées, donc on est obligé d'additionner les couches. Il n'est pas rare, sur une enluminure, d'avoir 5, 6, 7 couches successives pour bien montrer la robe bleue, le manteau rouge, etc. Autre chose également, pour les manuscrits médiévaux comme pour les fresques, l'homme du Moyen-Âge ou de la Renaissance, quand il voyait un bleu lapis lazuli, il savait que c'est automatiquement, vu le prix que ça coûtait, ou un rouge cochenille, il savait qu'on avait affaire à des personnages extrêmement importants. Nous avons perdu, nous, cette appréciation, au sens propre du terme. Par contre, si c'était une plante relativement plus commune, bah, probablement c'était quelque chose qui désignait un personnage moins important. On va revenir maintenant sur le parchemin, puisqu'on n'en a pas parlé. Tout à l'heure, j'avais parlé des lignes. Alors, pour écrire sur le parchemin, d'abord, ben, il faut tracer des lignes, parce que, ben, comme tout élève que j'ai été, on avait soit l'obligation de tracer des lignes, soit on avait des cahiers déjà réglés, hein, les lignes étaient déjà faites, les petits carreaux, les grands carreaux, pour les commandes, il fallait mieux savoir. Donc, on traçait des lignes. On avait donc ce repère, et au début, on traçait cette ligne avec un... Bah, on dirait un cutter de nos jours. C'est-à-dire qu'on faisait un sillon dans le parchemin. Ensuite, on perçait aussi les feuilles les unes sur les autres pour être sûr que la mise en page soit la même sur l'ensemble des feuilles. Puis, petit à petit, on va remplacer ce sillon par la mine de plomb, au sens propre du terme. Hein. Pourquoi ? Parce que le sillon, c'est pas pratique. Mais ça va avoir quand même des conséquences. Imaginez, vous êtes avec votre plume, et puis vous avez l'encre dans la plume, puis pas, vous tombez dans le sillon. Oh, c'est le pâté en longueur, hein, qui est assuré. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, vous verrez que dans les manuscrits médiévaux, l'écriture se trouve au-dessus de la ligne. C'est plus élégant, certes, mais aussi c'est une tradition qui a perduré. Alors, nous allons nous mettre à écrire. Chacun peut-être a connu ses épreuves. Hein. pour ma part, je crois que je vais partager les anciens souvenirs. C'est le pupitre en bois avec l'encrier en porcelaine. Comme j'étais fils d'enseignant, en plus, je me collais une corvée supplémentaire. Je devais descendre rapidement avant l'arrivée des autres élèves pour fabriquer l'encre. Hein, donc, on avait une bouteille, de la poudre violette. On s'en mettait plein les doigts. Enfin, en tous les cas, moi, c'était mon cas. Et puis ensuite, on faisait la tournée des popotes, c'est-à-dire qu'on faisait la tournée pour verser de l'encre. Pas trop, parce qu'il fallait pas que ce soit qu'on renverse. Au bout de la bouteille, il y avait un bouchon un peu particulier, un bouchon verseur. Et à ce moment-là, donc, on était prêt pour pouvoir écrire. Alors, on avait la plume métallique. Alors, évidemment, elle a des formes différentes suivant l'usage qu'on lui destinait. Hein. La plume du géomètre n'est pas la même que la plume de celui qui, de l'élève, en quelque sorte. Et sur le papier, on reproduisait les lettres les unes après les autres, avec les pleins et les déliés. On avait ainsi des pages d'écriture tous les jours. Hein. Cela me permet d'évoquer justement quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'absence d'écriture actuellement. Alors je vais jouer les râleurs, ou plutôt les antimodernes, mais je ferai appel aux neurologues qui ont mis en évidence que la pratique de l'écriture favorisait énormément la lecture. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous avez un mouvement de la main très particulier, ce qu'on appelle le ductus, la conduite de la plume. Cette conduite, elle se traduit par un dessin dans l'espace qui petit à petit est mémorisé. Et cette écriture, même si celle relativement incompréhensible d'un médecin, va nous permettre évidemment de mieux apprendre à lire. Donc il faut absolument, et je recommanderais aux gens qui veulent que leurs enfants lisent, il faut leur suggérer d'écrire. D'abord, ils comprendront pourquoi ils doivent apprendre à lire, parce qu'ensuite, ils vont pouvoir écrire. Mais pas écrire comme ça pour le plaisir d'écrire, non. Non, tu dois écrire une lettre à tata, à tonton, je ne sais quoi. Donc, les mettre en situation de demande, qu'ils comprennent que ça sert à quelque chose. Hein, pas simplement dire, fais un M, un P, etc. Donc, je commençais par un petit texte que j'ai sorti d'un texte médiéval qui vient des coutumes de Guignes. Voilà ce qu'on disait à propos du nécessaire pour un scribe du Moyen-Âge. Alors, on lui remettra, pour faire son travail, un encrier, je lis le texte, hein, des plumes, de la craie, deux pierres ponces, deux cornes, un canif, deux rasoirs, pour racler le parchemin, hein, un poisson ordinaire, un autre plus fin, un crayon de plomb, une règle, des tablettes, un style ou un stylet. Voilà tout ce qu'il devait avoir avant de commencer à travailler. Je n'ai pas parlé du parchemin parce que j'ai évoqué la tablette dans le texte, mais bien sûr, on lui remet aussi éventuellement le parchemin. À cela, en général, on ajoute des pinceaux, des ciseaux, des mortiers, des fioles de verre ou de terre cuite, du filtre pour l'encre, des règles et compas, éponges, chiffons de lin ou de laine, de la gâte pour faire briller. N'oubliez pas qu'il y a des feuilles d'or aussi à faire briller. Des coquillages, des brosses, etc. etc. Donc c'est quelque chose d'assez complexe hein, d'être à la fois un scribe et un enlumineur. Si vous voulez écrire, vous pouvez très bien faire ce que faisait le scribe du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors vous pouvez prendre un roseau, mais bon, chez nous, c'est pas forcément le plus facile à trouver. Il faut qu'il soit assez sec, enfin bref. Je vous recommande de prendre une plume, tout simplement. En principe, on prend une plume d'oie. Mais on peut très bien utiliser d'autres animaux. Hein. On utilisait par exemple ce qu'on a retrouvé dans les fouilles. On a retrouvé des assez, assez particuliers, des plumes de vautours, des plumes de pélicans, des plumes de cygnes, des plumes de corbeaux, des plumes de canards, des plumes de coqs de bruyère. Voilà quelques exemples d'animaux qui vont être utilisés pour fabriquer notre fameuse plume. J'ai même retrouvé, je ne peux pas exactement me souvenir ni où ni comment, mais quelque chose qui était assez extraordinaire, c'est qu'il y avait quatre plumes importantes pour les cygnes. Les cygnes ont l'habitude toujours d'avoir la tête enfouie dans une aile. Je crois que c'est l'aile gauche, si on regarde le cygne par l'arrière, si j'ose dire. Et cette aile, elle est plus développée que l'aile droite, par cette position de couverture. Et donc, les rémiges de l'extrémité sont plus développées elles aussi et plus en courbe. Tout à fait extraordinaire pour le scribe. C'était de loin les plumes les plus recherchées. Peut-être que les spécialistes, n'est-ce pas, du signe, vont vouloir d'une description très approximative, mais c'est quand même une curiosité qui est assez intéressante à évoquer. Alors, comment on préparait cette fameuse plume pour pouvoir écrire? Ben bon, d'abord, on enlève les barbes gênantes, vous savez, qui sont le long du tuyau, hein, ces barbules, là. Ensuite, on taille des deux côtés la plume, où il reste une espèce de peau, en la faisant tourner dans ses doigts. Ensuite, ben, on va couper l'extrémité dans la longueur, dans le sens de la plume. On va fendre la plume, c'est ce qui va servir de réservoir plus tard pour l'encre. Hein, c'est cette fente qui permettra de retenir l'encre et de donner de la douceur au tracé. Et puis maintenant, l'opération la plus importante, on va tailler l'extrémité de la hampe, de la plume. Alors là, on a le choix. Soit on la taille droit, donc on a une plume un peu comme certaines plumes en dessin qui nous permettent de faire des traits très larges, la fente toujours au milieu pour l'écoulement de l'encre. Soit on les taille en biseau. Alors soit en biseau symétrique, soit en biseau à gauche, soit en biseau à droite. Tout dépend évidemment de l'écriture que l'on envisage de faire. Donc on adapte en quelque sorte la plume à l'écriture ou à la forme des dessins que l'on envisage de réaliser. Alors, la paléographie, je vous rappelle, la paléographie, c'est l'étude donc des écritures sur des matériaux souples. Hein. On a vu tout à l'heure que l'épigraphie, c'était sur des matériaux durs, sur la pierre, par exemple. Hein. Donc, on pense que les méthodes d'apprentissage sont à peu près identiques pour chaque personne, mais on remarque très, très rapidement que chaque personne a une écriture différente. Ça nous permet évidemment de mieux comprendre, de mieux faire des parallèles entre des parchemins. Ben, c'est un tel qui l'a écrit. Bon, vous reconnaissez aussi l'écriture des gens qui vous sont familiers. Hein, prenez l'enveloppe, oh, ben, ça va être un tel. Des fois, on se trompe. Enfin, bref, on pense comme... Il faut dire que les gens écrivent de moins en moins bien aussi. Ils n'ont plus conservé cette écriture. C'est intéressant de voir l'évolution de l'écriture. Cette génération qu'on connaît actuellement, ces écritures évoluent, elles dépendent de son caractère. On n'écrit pas de la même façon quand on est en colère ou quand on est au contraire très heureux. Et quand on veut s'appliquer ou pas. Quand vous écrivez, n'est-ce pas, à une personne importante, votre directeur, vous faites gaffe, n'écrivez pas n'importe comment. Hein. Bon. En principe, l'écriture n'évolue pas trop au cours de la vie, d'ailleurs. Vous avez des tics. Hein, d'écriture pour faire les A. En général, vous faites à peu près pareil, sauf si un jour, une grosse révolution dans votre esprit, et vous passez du A d'une certaine, de ce qu'on appelle l'ancial, vous savez que c'est pas tant en biais, je sais pas, à la minuscule Caroline qui sera beaucoup plus large, peu importe. Donc l'écriture, elle se fait la main posée avec un lever de plume fréquent. Donc, si je veux dessiner un A, je commence par le haut. Hein, c'est un A tel que vous trouvez en imprimerie, ce qu'on appelle l'oncial. Donc, vous faites la hampe qui descend en bas à droite. Et la forme de la plume va vous donner la fin de votre hampe. Elle sera large au milieu quand vous serez pleine plume. Et puis, vous, sans changer, comme vous êtes sur le biseau pour remonter, eh bien, elle va être fine. Puis ensuite, vous ferez la même chose avec le ventre. De la lettre, et vous aurez aussi des pleins et des déliés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, disons qu'on distingue en gros toute une série d'écritures au Moyen-Âge. Il y en a une qui est restée qui a perduré jusqu'en 2021, n'est-ce pas? Je pense à la capitale romaine, la lettre capitale. C'est une invention des Romains, hein, de l'Antiquité, et nous l'avons conservée quasiment intacte. Autrement dit, quand vous écrivez en lettres capitales, vous écrivez comme les Romains, n'est-ce pas, des premiers siècles. Donc, disons que les premières formes d'écriture qui ont été répertoriées s'appellent l'oncial, semi-oncial, puis ensuite on aura la minuscule insulaire, puis la minuscule caroline, ça c'est l'écriture du temps de Charlemagne, caroline, ça vous dit quelque chose, hein, Karl. Puis on aura la minuscule gothique. Hein, vous voyez avec là aussi des hampes très larges et puis au contraire des retours très très fins qu'utilisent encore nos amis alsaciens ou allemands. Hein. On retrouve encore beaucoup de textes avec cette forme d'écriture. On aura ensuite une gothique quadrata, une capitale gothique, enfin bref. Et on arrivera à l'humanistique et capitale humanistique qui ressemble beaucoup à ce que nous connaissons de nos jours. Voilà. Donc, il y a aussi des abréviations. Tout à l'heure, j'avais dit que le parchemin était rare, était cher. Et donc, on s'aperçoit rapidement qu'il faut utiliser des raccourcis. Parce que si vous avez des abréviations, en quelque sorte, vous allez gagner de la place. Et la place, elle est importante. Pour vous dire que le parchemin coûte cher, on a trouvé des livres qui ont été complètement rognés. C'est-à-dire qu'on coupait les marges, etc. On récupérait, on les rafistolait, on bricolait une page à part. Donc on va inventer des abréviations. Ça existait déjà dans l'Antiquité. Hein, on dit qu'il y a un esclave affranchi de Cicéron qui avait inventé déjà des signes qui remplaçaient les mots. Hein. Bon, on connaît aussi ça. Cette cryptographie, elle est bien connue aussi dans les documents officiels de nos jours. Donc, ces abréviations ou ces notes tyroniennes, parce que notre romain, il s'appelait Tullus Tiro, donc c'est devenu note tyronienne, vont être utilisées. Et c'est la difficulté quand on lit un manuscrit médiéval, il faut connaître les notes tyroniennes, parce qu'on tombe évidemment sur des difficultés, parce qu'on ne connaît pas les abréviations, hein, même si l'écriture est parfaite.